pour démystifier la chose, il n'y a pas un besoin d'être bon en physique ou en maths. On a des systèmes, on a des logiciels, la tablette, tu vois, un bon iPad avec tout ce qui va bien dessus fonctionne bien. Donc non, aujourd'hui, il faut pas un niveau phénoménal entre guillemets pour piloter. C'est pas nécessaire. Tout, c'est à la portée réellement de tout le monde.
Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation. Aujourd'hui, on s'envole direction l'aéroclub de Roux en Normandie à la rencontre de Julien Lerneau, un des pilotes instructeurs de l'aéroclub. Avec lui, j'ai eu la chance de voler quelques minutes dans un petit avion B-23. Ensuite, nous nous sommes posés dans une des salles de briefing pour discuter. Vous allez le voir, Julien parle de manière claire, précise et à la fois calme. Impossible de se tromper, c'est bien un pilote. D'ailleurs, dans l'avion, c'est la même chose, détendu, mais très précis et méthodique. Comment on devient pilote, ses expériences en tant que pilote de ligne, mais aussi la sérénité qu'il faut pour enseigner, retourner un avion qui part en vrille ou se remettre en selle après une mauvaise expérience. On a parlé de tout ça dans cet épisode d'Occupation. Est-ce que toi, tu as un souvenir de la première fois où tu es aux commandes d'un avion et où il s'élève ?
Bah, écoute, le premier souvenir que j'ai dans un avion, il est relativement jeune. Je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça, où c'est mes parents qui m'ont offert un baptême de l'air. Alors, je pense que je les ai saoulés avec ça à un moment ou un autre. À l'époque, dans Rouen, on voyait des bornes un peu partout, dans les magasins, à la Fnac, dans les cinémas et autres, où tu pouvais, tu mettais un bon, entre guillemets, et tu pouvais avoir des renseignements pour un baptême. Et puis, ils me l'ont fait complètement par hasard, sous couvert d'autre chose, comme souvent, la surprise. Voilà, je suis arrivé devant l'avion, j'ai pas eu le temps de me poser trop la question. Et ce moment a dû me marquer, entre guillemets, parce que j'ai continué. Au lycée, je faisais partie de ces gens qui savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. T'es un peu en mode, bon, qu'est-ce que je fais, l'orientation et ça, voilà. Et je dirais que c'est l'aéronautique qui m'a sauvé à un moment ou un autre sur ce point.
Donc c'était pas vraiment rêve de gamin que t'as eu tout le temps, mais c'est resté en fond, quoi.
Ouais, c'est arrivé assez vite. En fait, je suis venu à l'avion par la simulation, parce que étant plus jeune, en fait, je me suis intéressé à l'aéronautique et le fait de m'intéresser, je suis tombé sur Flight Simulator, comme beaucoup, hein. Ça a bercé pas mal de monde, entre guillemets. T'allais à Carrefour à l'époque, t'achetais Flight Simulator 2004, dernière version. Voilà, t'installais ça sur ton PC, ça buguait toutes les deux minutes, hein. Et puis voilà. Tu t'amusais là-dessus, t'apprenais des choses. Tu faisais pas tout dans les règles de l'art, finalement, à l'époque. Petit à petit, j'ai fait de la simulation en réseau. Parce que c'était le début d'Internet, des réseaux, des choses comme ça. Donc on se connectait avec d'autres personnes. Et la simulation en réseau, sur certains réseaux qui existent, est un vrai catalyseur de ça. C'est-à-dire qu'on retrouve des passionnés, aussi bien des pilotes de ligne qui font de la simulation à côté que des purs passionnés, et qui appliquent des procédures vraiment réelles, très proches de la réalité. Et on apprend énormément de choses. On applique les mêmes réglementations, la même façon de fonctionner, le tout en simulation. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et puis jusqu'au jour où j'ai franchi la porte d'un aéroclub.
Alors maintenant que tu es dans le réel, est-ce que c'est descriptible pour un auditeur qui n'a jamais tenu les commandes d'un avion? Est-ce que tu peux décrire la sensation que ça fait?
C'est difficile, ça va dépendre de chacun. Certains vont te dire une sensation de liberté, d'autres c'est le panorama. Voilà, il y a autant de descriptions, je pense, que de personnes. Moi, ce que j'apprécie aujourd'hui, par mon expérience d'instructeur, d'examinateur, déjà, c'est le côté instructeur pur, c'est la pédagogie. C'est le nombre de profils qu'on voit. C'est aussi l'avantage dans un aéroclub, c'est qu'on a tous les profils. J'ai eu l'occasion de faire de l'instruction aussi bien en compagnie, donc avec des gens très formatés, professionnels et autres, mais on en fait aussi auprès des pilotes privés. Ça peut aussi bien être le jeune qui sort d'un brevet d'initiation aéronautique fait avec l'éducation nationale, donc c'est qui a aucune expérience, hein, qui arrive entre 13 et 16 ans, entre guillemets, pour voler, aux jeunes actifs de 30-35 ans qui, entre guillemets, a fait ses études et puis aujourd'hui il est à peu près installé dans la vie, puis il a envie de se relancer là-dedans comme toute autre activité, ou alors la personne retraitée qui arrive, qui a toujours voulu faire ça, c'était un rêve de gamin, et puis il se dit aujourd'hui j'ai enfin le temps, je vais le faire. Donc on a des profils totalement différents avec des expériences totalement différentes, et il faut s'adapter à chaque profil.
Et
toi, quand, en dehors du boulot, à côté de ce boulot d'instructeur, quand tu voles seul, tu le fais pour quelle raison, en fait ?
Je le fais pour le plaisir, principalement pour emmener des amis, emmener de la famille. Voilà, ça va être pour ça. Ça va être aussi pour des voyages. Ça peut arriver de partir en week-end avec des amis à plusieurs. Donc voilà, c'est principalement dans ce caractère-là, parce que c'est vrai qu'à côté, quand je vole seul, souvent, il y a quand même un petit côté pro. Ça peut être soit pour convoyer un avion, pour aller sur un atelier de maintenance, pour faire un vol d'essai entre guillemets sur un avion, parce que voilà, on est en train de, enfin, il vient de sortir de maintenance, il y a quelque chose à faire dessus, ou alors ça va être dans un but purement d'instruction avec un élève, ou alors pour un examen aussi, étant examinateur aussi, ça peut être pour un test en vol. Donc c'est vrai qu'on reste toujours dans cette optique là.
Mais malgré tout ça, il y a quand même toujours un petit plaisir d'être en l'air.
Toujours un plaisir d'être en l'air, et puis surtout, je dirais le parcours que j'ai eu a fait que j'ai piloté beaucoup de machines, que ce soit à titre perso, que ce soit en aviation d'affaires, que ce soit en tant que pilote de ligne, que ce soit en faisant des lignes régionales en France, aussi bien qu'en posant un avion au milieu de l'Afrique dans le désert. Il y a toujours un plaisir selon ce qu'on fait.
Et hop là,
faut être souple.
Là, j'ai peur de toucher quoi que ce soit. On a le manche pile entre les jambes.
Ah, il faut pas être très grand. Hein. Faut pas être très grand.
Bon, c'est le moment où je dis que je l'ai jamais fait, que j'ai un peu les jetons.
C'est ça ?
Oui.
C'est le moment où je te dis que on a le droit à 10% de perte par an, donc tout va bien. Alors, on n'a pas encore atteint notre quota cette année, donc tu vois, t'as de la chance.
Alors, hop.
J'ai toute la ceinture.
Ça me paraît être à la bonne taille.
Allons-y pour la mise en route. Du coup, on a personne de chaque côté. Et bien, c'est parti.
Je vais revenir un petit peu sur les avions de tourisme, du coup, le petit avion qu'on a pris. Tu voles à quelle vitesse ? On était à quelle vitesse, par exemple ?
Alors, globalement, on appelle ça l'aviation générale, en contrario de l'aviation commerciale ou de l'aviation militaire. L'aviation générale, c'est ce qui va globalement regrouper les pilotes privés et puis les aéroclubs. Ça regroupera aussi l'aviation d'affaires éventuellement quand c'est pas commercialisé, ou du moins c'est des privés. Par contre, sur l'aviation générale, du coup, dans les aéroclubs comme ça, on a une flotte d'avions qui avance entre 100 à 130 nœuds. Donc 100 à 130 nœuds, ça te donne à peu près 180 à 240 km/h selon l'avion.
C'est dingue, parce qu'on s'en rend pas compte, en fait.
Tu t'en rends pas compte dans l'immédiat, tu t'en rends compte quand t'approches le sol, puisqu'on a une vitesse d'approche qui est aux alentours de 70 nœuds. Donc une vitesse d'approche aux alentours de 70 nœuds, ça te donne 120, 130 km/h. Finalement, on vient poser les roues à cette vitesse-là. Et on va avoir autour de ça le phénomène de vitesse se voit pas dans l'élément en lui-même. Il se voit si t'es proche d'une couche nuageuse ou autre, plus tu vas être proche d'un autre objet de référence. Là, tu vas t'apercevoir de la vitesse.
Un peu comme quand tu es dans un avion de ligne et que tu vois par le hublot un autre avion.
Tout à fait. Soit un autre avion, soit tu viens de passer au-dessus de la couche de nuages et donc tu t'aperçois tout de suite qu'il y a de la vitesse. Tu vois à quelle vitesse ça défile. Mais effectivement, s'il fait grand beau, en dehors du fait de regarder au sol, tu verras pas grand-chose.
Tu me disais, dans l'avion, il y a tel dispositif de sécurité, tel dispositif... Aujourd'hui, c'est sans risque. Alors évidemment, il n'y a pas de risque zéro, mais c'est très peu risqué, ces petits avions qu'on voit.
De base, c'était pas très risqué, entre guillemets. Je dirais que c'est une question de pilotage. Après, globalement, la plupart des accidents sont soit des facteurs humains, soit un problème de l'avion. Et après il y a du pilotage et puis souvent ça peut aussi être des cas de météo. Souvent c'est des pilotes qui se font prendre dans des situations météo, malheureusement, et ces situations météo sont fatales, entre guillemets. C'est rarement une défaillance technique de l'avion, tu vois, c'est pas ce genre de choses. Maintenant, aujourd'hui, on rajoute de plus en plus d'éléments qui sont hérités aussi d'une aviation commerciale, de choses comme ça. Donc il y a des systèmes de protection active, on appelle aujourd'hui, qui sont gérés par le pilote automatique, comme on verra en vol. En fait, ces systèmes-là viennent mettre des limitations. et éventuellement forcer le pilote ou lui indiquer qu'il faut aller dans un autre sens pour rétablir une situation. On a jusqu'à des systèmes qui sont capables, si pendant plus d'un certain temps, plus de quelques secondes, on dépasse certaines limites, de reprendre la main et de remettre l'avion dans une configuration neutre.
Et il y a aussi un système de parachute, tu m'as montré. Ça, c'est,
alors,
c'est
tout à fait, sur les avions dessus. De plus en plus, voilà. Alors, c'est quelque chose qui est intervenu pour la première fois, en fait, qui était devenu obligatoire sur des avions qui n'arrivaient pas à sortir de vrille, puisque dans la certification de l'avion, il y a une procédure de sortie de vrille. On fait plusieurs vrilles, on voit si l'avion est sain et est capable de sortir de vrille. Le principe de la vrille, c'est un décrochage dissymétrique. On a une aile qui va décrocher avant l'autre, et puis... s'entraîne un mouvement. Un avion, lorsqu'il part en vrille, la difficulté, c'est d'en sortir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit certifié pour. Et comme on a cherché à faire des avions de plus en plus fins, avec une vitesse rapide, mais également, à cette vitesse associée une consommation mini, si j'ose dire. Donc il faut la meilleure finesse possible. Hein. C'était le principe de la voiture, la CX à l'époque, d'avoir le meilleur coefficient de pénétration dans l'air. C'est exactement la même chose chez nous, mais à vouloir faire ça, le problème, c'est qu'on met des petits artifices un petit peu partout sur les avions, et puis à un moment ou un autre, sur le papier, ça vole bien. Par contre, quand l'avion part dans une situation incontrôlée, il peut ne pas pouvoir en sortir. Donc, y a un avion en particulier, le Cirrus, qui n'était pas en mesure de faire ça, auquel on a mis un parachute de cellules. Et puis, c'est quelque chose après qui s'est développé aussi sur les ULM, parce qu'il y a beaucoup d'accidents sur les ULM. L'ULM est très différente de l'avion. L'ULM, c'est quelque chose qui n'est pas soumis à la même réglementation, et on peut y toucher un petit peu comme ça, entre guillemets. Et donc, chose qu'on a trouvée, c'était de mettre un parachute de cellules. En gros, s'il y a un problème, on tire la poignée, il y a un parachute qui sort et qui permet de descendre l'avion.
Je vois un parachute pour humain, mais l'avion, il tombe. Tu peux le diriger à ce moment-là ou
non,
il tombe sur une maison?
Non, tu ne pourras pas le diriger. C'est pour ça que normalement, quand on sort le parachute, on essaye d'être dans une zone qui est pas, où il n'y a pas trop de monde. Si tu peux le faire sans qu'il y ait de forêt, de choses comme ça, c'est bien aussi parce que tu ne maîtrises pas les arbres qui sont en dessous. Mais si tu as une zone dégagée, alors tu vois en l'air ce que ça donne. Hein, on a des grandes étendues finalement. Hein, les villes sont très concentrées, il y a beaucoup d'étendues autour de nous. De toute façon, on n'a pas le droit de survoler les villes, les habitations comme ça. Il y a des restrictions en vol. Mais à partir du moment où on est au milieu de la campagne, c'est clair que si t'arrives un souci, après tu pourras pas toujours le maîtriser. Si ça t'arrive de nuit, si ça t'arrive dans des conditions météo particulières, tu tires le parachute et puis ça a permis de sauver beaucoup de monde, certains avions. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'avions être équipés de ce système de protection qui est quand même une grosse mesure de sécurité.
Tu parlais de partir en week-end avec des amis. Jusqu'où on peut aller avec un avion de tourisme ?
T'as pas de limite. Globalement, on va être clair, t'as pas de limite du tout. Un avion de tourisme, tu vas être limité forcément par l'autonomie. On a des avions qui sont long range, qui peuvent aller jusqu'à 6-7 heures de vol, avec des vitesses de 200 km/h, de 250 km/h.
Donc finalement, dans le sud de la France.
C'est ça, je pense. On sera limité par la taille de la vessie avant d'être limité par l'avion. Généralement, ça se passe comme ça.
Oui,
donc,
c'est tout petit, il n'y a pas de toilette.
C'est ça, il n'y a pas de toilette, donc il faudra faire des haltes, faire des pauses. Donc, et puis ça fait du bien de faire des pauses aussi entre deux. Après, tu ne seras pas limité. Ça nous arrive de faire des week-ends ou des sorties d'une semaine en Corse ou ailleurs. Hein. Ça s'est fait dans le passé. On a fait des voyages au Maroc, aux Pays-Bas, un peu partout.
Là, tu dis faire des haltes, aller en Corse, etc. Donc tu pars de Rouen. Et si tu veux faire une halte quelque part, en fait, il fallait que ce soit prévu dans le plan de vol avant et que tu aies prévenu l'aérodrome en question, ou tu arrives sur zone et tu préviens la tour de contrôle.
En fait, tout dépend de comment tu voles. Il y a plusieurs règles de vol. Il y a des règles de vol totalement à vue. On ne fait que regarder à l'extérieur, donc il faut que les conditions météo soient bonnes. Il y a des pilotes et des avions qui vont être qualifiés ce qu'on appelle IFR, donc aux instruments. Quand on vole aux instruments, on aura l'obligation de déposer un plan de vol. Après, si tu restes sur le territoire national, j'entends que tu fais pas de franchissement de frontières, on n'est pas obligé de déposer un plan de vol. On peut partir de Rouen, descendre à Marseille, entre guillemets. On n'a aucune obligation de déposer un plan de vol. On va rentrer en contact avec différents organismes, mais c'est pareil, ces organismes peuvent être fermés aussi. Tu pourrais très bien, le week-end, au beau milieu de la nuit, traverser la totalité de la France sans jamais contacter personne, si tu respectes les attitudes, parce que les différentes zones sont fermées. Une zone, ça se ferme, ça s'ouvre, les contrôleurs sont pas là tout le temps, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça dépend où. Nous, à Rouen, ils ferment tous les soirs, ils rouvrent le matin, mais si tu viens voler à 2h du matin, il y aura personne. Donc officiellement, on est dans ce qu'on appelle un espace aérien non contrôlé, qui a d'autres règles que l'espace aérien contrôlé. Et puis quand la zone s'active, les règles de l'espace aérien contrôlé reviennent. Donc, alors, dans la préparation du vol, on demande au pilote, parce qu'il faut quand même qu'il prévoie son empereur carburant, il faut quand même qu'il prévoie pas mal de choses, hein, la réglementation est assez restrictive là-dessus, il va être nécessaire que le pilote prévoit tout ça quand même. Donc oui, le terrain, généralement, où il va se poser pour refueler est prévu. Pourquoi ? Parce qu'on va appeler le service au sol, les opérations ou autres, le gestionnaire de l'aéroport, lui demander quelles sont les facilités, comment on va payer, parce que c'est un petit peu comme sur la route. Hein.
Oui, c'est vrai qu'il faut payer dans l'essence.
Est-ce qu'il y a un automate ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce qu'il faut que quelqu'un soit là ? Quel type de carburant aussi ? Parce que tous les avions ne consomment pas le même carburant. T'en as certains qui vont être un carburant sans plomb, d'autres avec un carburant plombé qui s'appelle l'avgaz sans LL, d'autres avec du jet 1, donc du kérosène. Chaque avion peut consommer quelque chose si l'aéroport n'est pas équipé pour te recevoir et avoir ce carburant-là. Donc oui, on prévoit en avance. Et la réglementation, entre guillemets, demande au commandant de bord d'être prévisible là-dessus. C'est-à-dire qu'il va prendre toutes les marges de sécurité possibles pour assurer ça. Et au-delà de ça, c'est de prévoir aussi, éventuellement, si on ne pouvait pas se poser sur ce terrain-là, prévoir des dégagements éventuels pour pouvoir dégager sur un autre aéroport, qui est la différence avec le déroutement. Dans notre jargon, un dégagement est vraiment un terrain qui a été prévu à l'avance, un déroutement c'est quelque chose qui n'est pas du tout prévu.
J'aime bien parce que tu as une main sur le tableau de bord, on a l'impression que tu es tranquille sur la portière, quoi.
C'est 29 Avignon, autorisé décollage, on appelle Whisky Delta.
Allez, décollage autorisé, on prend une grande respiration. Parce que c'est beaucoup plus doux en fait quasiment qu'un avion de ligne, j'ai l'impression qu'on est sur un fil. Ouh, ça bouge quand même.
On parlait là donc d'aller en week-end, mais dans ces cas-là, dans un aéroclub comme celui-là, est-ce que les gens ont leur propre avion ? Est-ce qu'ils louent un avion ? Est-ce que, alors je suppose qu'il y a tout un tas de situations, mais qu'est-ce qui se passe dans un aéroclub en fait ? Est-ce que les gens mettent le leur ? Est-ce que
t'en loues ? Faut revenir sur le principe d'un aéroclub. La France est le deuxième pays mondial en termes d'avions, de pilotes, et ce qui va avec. Ça s'est construit avec le maillage des aéroclubs. On a pour habitude de dire qu'on a toujours un aéroclub en France quasiment. Il y a un aéroport quasiment toutes les 30 minutes, comme ça, sur le territoire national. Donc, globalement, il y a un aéroclub. Voilà. On a une fédération française aéronautique qui est présente. Ça s'est toujours développé comme ça. Et tous ces aéroclubs sont généralement des lois 1901, des associations loi 1901. Quel est le principe ? C'est que ces clubs participent à l'essor de l'aéronautique par des vols découvertes. C'est ce qu'on fait, hein, typiquement ce qu'on appelait le baptême de l'air familièrement. Hein, globalement, tu viens, on est limité par la réglementation à une petite demi-heure de vol, mais on fait découvrir l'activité, ça peut se faire avec ou sans instructeur, donc soit c'est un pilote qui a de l'expérience qui va faire découvrir l'activité, soit c'est un instructeur qui va te permettre de prendre les commandes et puis de voir un petit peu ce qui se passe. Après, on assure de la formation. Donc on prépare au brevet de pilote privé, on les fait passer, on entretient les compétences tout au long de l'année. Et après, ça va être de la location, qui est le dernier volet de notre activité. Les avions appartiennent soit à l'aéroclub, soit sont loués auprès d'organismes et donc rattachés à la flotte de l'aéroclub. Ce qui se fait, c'est que ces avions-là font 500-600 heures à l'année. Et donc on permet de les partager entre les membres, ce qui coûte beaucoup moins cher que de posséder un avion, ce qui coûterait extrêmement cher, hein. Un avion ça coûte cher, un avion école c'est aux alentours de 200 000 euros hors taxes et plus, un avion de voyage on peut très vite monter à 5-600 000, donc comme ça coûte très cher, ces associations soit louent des moyens auprès de sociétés de location, soit achètent des avions pour les mettre à disposition de ses membres. Et après, voilà, chez nous nous, on a à peu près 150 membres qui vont se partager l'utilisation de l'avion. Certains sont que des élèves, certains sont des instructeurs pour former les élèves, forcément, et puis d'autres sont des pilotes, tout simplement. Et une fois que tu es breveté, bah, ça fonctionne très simplement, en fait. On a un planning en ligne, les gens se connectent, réservent un peu comme un cours de tennis, tu réserves ton cours et puis tu viens. Bah, ici, tu réserves un avion. Notre système informatique vérifie que tu es dans les clous partout, aussi bien en termes d'expérience récente, par rapport aux règles du club, par rapport à ne serait-ce que l'approvisionnement de ton compte pilote, hein, financièrement ou autre. Et puis, ça permet de débloquer des clés. Tout ça est géré informatiquement, ça débloque les clés. Donc tu peux venir voler à n'importe quel moment, à partir du moment où tu es qualifié et que tu peux. Si à 3h du matin, l'envie te vient de venir faire un vol, tu peux. Tu prends les clés, tu sors l'avion, tu fais ton vol, tu reviens, tu te poses, tout est consigné dans le carnet de route de l'avion, tu saisis ton vol pour l'aspect facturation, et puis tu règles ton vol, et tu repars, tu refermes le club. En fait, tous nos membres ont accès au club sans aucun souci. À partir du moment où ils sont membres, ils ont accès à nos locaux, à nos installations, aux avions, et leur licence de pilote leur assure le fait de pouvoir accéder sur les zones réservées des aéroports.
Et du coup, quand ils prennent un vol comme ça, comme un cours de tennis, je suppose que ça coûte un peu plus cher qu'un cours de tennis, ça coûte combien? C'est payé à l'heure?
C'est payé tout à fait à l'heure. Donc tous D'accord. les membres payent une cotisation à l'année, hein, comme au golf, comme au tennis, comme partout. Ça reste une association. Et après, c'est un coût à l'heure de vol qui comprend tout. Le carburant, l'entretien de l'avion, la participation aux frais, l'assurance, tout ce qu'on veut bien. Donc c'est un coût fixe. On est actuellement, on a connu quelques augmentations avec les comme la voiture, hein, mais on est entre 140 et 200 euros de l'heure selon le type d'avion. Donc finalement, ça peut revenir pour quelqu'un qui est breveté, hein, une fois qu'il a le brevet de pilote, sur un avion de voyage, tu vois, on va être à 50 euros à peu près la place de l'heure de vol par personne, puisque quand tu as 4 places à 200 euros, on est à 50 euros par personne. Chose qui est en plein essor actuellement aussi, c'est le co-avionnage, entre guillemets, c'est quelque chose qui se développe. On a des plateformes spécialisées là-dedans. Wingly, pour pas la citer, est une de ces plateformes qui se développe beaucoup. Et si tu veux, cette plateforme-là permet de mettre en relation des personnes de l'extérieur avec des pilotes qui font des vols. Alors c'est beaucoup connu des pilotes, ça mériterait d'être connu encore plus du grand public, mais en fait ça permet simplement un pilote qui demain se décide à aller faire un vol, plutôt que de le faire tout seul finalement pour le plaisir, pourrait très bien juste proposer ses places en ligne. Alors il y a un contrôle qui est fait derrière, hein. Le club s'assure des compétences, l'autorise à faire ce genre d'activité sur les avions du club, donc c'est important. C'est pour ça que le fait de le faire avec un pilote qui utilise un aéroclub, entre guillemets, plutôt que privé dans son coin, c'est important aussi, parce qu'on assure un contrôle avec la fédération et nos instructeurs derrière. Et derrière, la personne va faire le vol en partage de frais. Vous êtes trois dans l'avion, le vol coûte 200 euros, chacun paye un tiers du coût de l'avion. Ça peut être l'occasion, pour pas très cher, d'aller déjeuner au Touquet, ou tu vois, de revenir, ce genre de vol. Un aller-retour le Touquet, c'est à peu près 1h30 à 2h de vol. Tu vois, 200 euros, 1h30 à 2h, c'est entre 300 et 400. Donc ça fait, avec les taxes d'atterrissage, les choses comme ça, enfin les redevances d'atterrissage, ça fait à peu près 120-125 euros la place par personne, plus les frais que le site prend. Mais un peu comme Blablacar, on a cette version-là aussi.
Ça bouge pas mal. J'ai l'impression que les ailes, elles vont de droite à gauche depuis tout à l'heure. Ouais, donc là devant, l'écran vert, c'est une sorte de GPS en fait, avec ta position en temps réel, quoi.
Donc, droite à gauche, on va faire un tour à gauche et puis on va poursuivre. Ouais, pour se positionner derrière. Ok, numéro 1, on
va mettre. C'est impressionnant quand même. Ça a l'air hyper maniable.
C'est très maniable parce que c'est un avion école, donc c'est le but, hein, c'est relativement maniable. Par contre, il faut le manier. Alors après, avec l'habitude, forcément, c'est un petit peu notre métier, donc on fait ça toute la journée. Ça paraît un petit peu plus simple, malgré tout. Il faut s'entraîner régulièrement.
Ça parle énormément à la radio, en fait. Ça s'arrête jamais. J'osais à peine parler parce que... Ouais.
Alors, je me rends compte qu'il y a énormément de trafic en vol. Et là, cette fréquence-là, la fréquence sur laquelle on est, ce n'est uniquement que ce qui se passe sur l'aéroport de Rouen. Parce qu'après, tu peux avoir ce qu'on appelle des déclassements, donc avec des zones, tu as un même aéroport, il peut y avoir plusieurs fréquences selon que le trafic est sur le moment de se poser, ou il est en approche, il est au départ, donc il y a plein de fréquences, ou alors même il est en train de rouler, on peut séparer les trafics. Et certaines fréquences comme Paris sont beaucoup plus saturées que ça, donc c'est des dizaines et des dizaines d'avions en même temps qui volent, on se rend pas compte du monde qu'il y a au-dessus de nous.
On va revenir un peu sur ton métier d'instructeur. C'est quoi le plus dur quand tu accompagnes quelqu'un qui débute et qui va forcément faire des erreurs? Je suppose qu'il faut être d'un calme absolu.
Alors, le métier d'instructeur, c'est quelque chose qui est très spécifique. C'est déjà avoir l'envie de partager, effectivement, ça. Alors, ça, c'est le leitmotiv des aéroclubs. Quand tu vas franchir la porte d'un aéroclub, normalement, tu tomberas en grande majorité sur des gens qui sont passionnés. Ça, c'est clair, qui ont envie de faire partager. C'est que des bénévoles autour de nous, donc les bénévoles font partager leur envie de voler. On tombera toujours sur quelqu'un, ça m'arrive souvent. Tu vois, la semaine dernière, j'étais là en train de faire un cours, et puis un jeune homme avec son enfant qui frappe à la porte et qui dit « Est-ce qu'il serait possible de voir les avions de plus près ?» Donc, aucun problème, on ouvre la porte, on les fait monter dedans, ils ont des étoiles plein les yeux, et peut-être que dans 4, 5, 6 ans, on les retrouvera à venir faire un baptême de l'air, à voler dans l'avion. Alors instructeur, c'est une activité que ça va faire plus de 10 ans que je fais ça. Donc j'ai 7 dominantes d'instruction, puis à la base j'ai mon métier de pilote de ligne à côté. Je dirais le plus dur dans notre métier, ou du moins dans notre fonction d'instructeur, c'est surtout que il y a plein de catégories d'instructeurs. T'as les instructeurs en compagnie aérienne, t'as les instructeurs qui vont faire des choses très spécifiques, apprentissage sur un seul type d'avion ou autre. Ça, je dirais, on apprend finalement à des gens qui sont déjà pilotes. Ça fait partie de l'évolution des compétences. Et nous, en aéroclub, on a une tâche qui n'est pas simple, c'est de prendre quelqu'un du niveau zéro, c'est-à-dire quand il n'a aucune heure de vol, mais vraiment aucune, et de l'emmener jusqu'à un niveau de pilote. Et l'une de nos tâches les plus compliquées et qui est la plus dure pour un instructeur, c'est pour ça qu'au début, quand il sera qualifié instructeur, il va être ce qu'on appelle restreint. Et il aura un superviseur, qui est un instructeur senior, entre guillemets, qui le prend en charge. Pourquoi ? Parce que derrière, il va avoir la lourde tâche de lui faire faire son premier lâcher solo. Avant même qu'il ait été examiné par quelqu'un, qu'il ait le brevet, il y a une dizaine d'heures de solo dans le cadre de la licence. Donc, il faut qu'il fasse ses vols solo. Et l'instructeur va lui délivrer une autorisation de partir en solo. C'est d'autant plus difficile que la personne n'a pas beaucoup d'heures. Et un solo, ça peut intervenir très rapidement pour un pilote. Au bout d'une dizaine d'heures de formation, voire moins,
tu peux être lâché seul en solo. Dans un avion
tout à fait. Tout à fait. Donc après, c'est extrêmement rapide. Et quand tu signes le premier solo d'un élève qui a 16 ans, t'as cette petite appréhension et ce qui va avec. Donc c'est très important, on a une grosse responsabilité en tant qu'instructeur, et comme je te disais, il y a plein de profils différents, donc c'est important.
Il y a un système de double commande dans l'avion qu'on a pris, donc toi en tant qu'instructeur, quand t'es avec quelqu'un qui a zéro heure de vol, tu lui laisses quand les commandes, et une fois qu'il les a, quel est le niveau d'erreur entre guillemets avant que tu reprennes la main, je suppose en douceur en plus, parce qu'il ne faut pas brusquer non
plus.
C'est
ça, en fait ça dépend un peu de tous les instructeurs et de l'expérience. Avec le temps, on a plus de facilité entre guillemets à laisser faire. En fait, tous les avions quasiment sont équipés de double commande, c'est très rare. Enfin, il y a des monoplaces qui n'ont pas de double commande, mais globalement presque tout le parc d'avions est équipé de double commande. Sur des avions de ligne, ils sont tous en double commande, surtout des avions qui sont multipilotes, ce qu'on appelle, qui sont obligés d'avoir deux pilotes pour piloter. Donc sur nos avions, il y a forcément une double commande, donc à gauche comme à droite c'est pareil. Et quand on est instructeur entre guillemets, on lui donne très rapidement les commandes dès le premier vol finalement. C'est juste qu'on va pas lui donner tout à faire. La première leçon est très cadrée, ça commence par le roulage, donc dès le départ il va apprendre à rouler au sol, et puis après on va décoller, on va lui donner les commandes en vol pour s'apercevoir qu'un avion il y a trois axes, lui montrer ce qui se passe, et puis ça arrive très rapidement au bout du deuxième, quatrième vol, le décollage, les premiers virages, les montées, les descentes, la gestion du moteur, tout ça arrive très très rapidement, donc on lui donne les commandes très vite. La phase la plus délicate, c'est finalement ça va être l'atterrissage, d'apprécier le plan de descente vers la piste, et puis ce qu'on appelle l'arrondi, donc le moment où on passe d'un vol où on est légèrement en descente vers la piste au moment où on doit légèrement cabrer l'avion pour venir le poser délicatement sur la piste. Donc c'est cette phase-là qui est la plus dure pour un pilote à apprécier et qui doit s'entraîner régulièrement. Chaque avion en plus a sa visualisation qui est différente, de jour, de nuit, ça change beaucoup. Donc ça demande de l'entraînement, et donc une grosse partie de la formation de pilote se fera aussi en tour de piste, qu'on appelle le tour de piste. Finalement, c'est tourner autour de la piste. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'avions en vol, mais en fait, c'est le même avion qui tourne. Et donc, bah, on tourne et on pratique en fait des atterrissages. Donc, on s'entraîne à poser encore et encore et encore, à gérer aussi par rapport aux conditions météo, si tu as beaucoup de vent de travers, si la piste est mouillée. Enfin, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Et c'est extrêmement important que le pilote ait la possibilité régulièrement de s'entraîner pour pas être dangereux finalement là-dessus.
Un truc très impressionnant que tu m'as montré dans le garage, tu m'as dit cet avion-là, il est fait pour simuler des, je sais plus si c'est des vrilles ou des tonneaux. Tu me disais il faut le remettre à l'endroit et c'est un avion qui est fait pour simuler des problèmes en fait.
Tu as des avions qui vont être des avions classés voltige, on appelle en catégorie voltige, mais on peut s'en servir. C'est le cas du Cessna 150 Aerobat que tu as vu dans le hangar. On s'en sert dans la formation, entre guillemets, pour faire ce qu'on peut appeler de la mise en garde pour les pilotes. La mise en garde, c'est de leur montrer ce qui peut se passer sur un avion, comment on arrive dans cette situation-là et comment on en sort. Et effectivement, c'est un avion qui est capable justement de partir en vrille, de faire du vol sur le dos. Voilà, tu peux complètement le mettre à l'envers, de faire des boucles, des choses en fait, ce qu'on appelle le looping, des choses comme ça. Et ça permet tout simplement de montrer, principalement dans le cadre de la vrille, comment un avion peut arriver dans une situation délicate, puisque nos avions école en catégorie normale ne permettent pas de faire de vrilles de façon volontaire, les simulateurs ne reproduisent très très mal les vrilles. Donc en fait, c'est le seul moyen d'être dans un vrai avion, d'avoir les sensations, de voir ce qui se passe, et finalement, de montrer que c'est pas très compliqué d'en sortir, d'appliquer la procédure. Mais c'est important de le faire, parce que si tu le fais jamais, le jour où ça va t'arriver, tu l'auras jamais fait. Déjà, tu vas être surpris par le phénomène, et ensuite, il va falloir en sortir. Et le fait de l'avoir fait démystifie un petit peu la chose.
Est-ce que ça a la portée de tout le monde de piloter un avion ?
Dans l'ensemble, oui. Oui, il n'y a pas de... On a des gens qui, des fois, médicalement parlant ou autres, vont avoir... sont pas portés par l'air ou comme dans un bateau. Tu peux être malade rapidement. Alors après, ça dépend beaucoup parce que les quelques premières heures, oui, tu peux être un peu malade, machin, t'es pas habitué. C'est des sens, il y a des accélérations, des vibrations, des choses comme ça. On n'est pas habitué à ce genre de choses. Donc l'oreille interne, tout ça, ça s'habitue. On peut être un peu désorienté, un peu nauséeux. Généralement, ça passe avec le temps. Les oreilles s'habituent, ça s'habitue. Avec le temps, on s'en aperçoit plus. C'est comme un pilote de voltige. Au début, t'encaisses des choses dans tous les sens, des jets et autres. Et puis avec le temps, ça devient normal. C'est comme une attraction.
Sur le plan technique, il faut avoir des connaissances particulières. Je ne sais pas, être bon en maths, en physique.
Non, pour démystifier la chose, il n'y a pas un besoin d'être bon en physique ou en maths. Des simples additions, soustractions suffisent généralement. C'est pas aujourd'hui. En plus, on a des systèmes, on a des logiciels, la tablette, tu vois, un bon iPad avec tout ce qui va bien dessus fonctionne bien. Donc non, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ça. Il faut pas un niveau phénoménal entre guillemets pour piloter. C'est pas nécessaire. Tout ça à la portée réellement de tout le monde.
On parlait des premières heures de vol, des premiers solos, etc. Au total, donc le brevet de pilote, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une partie théorique code comme la voiture ?
Oui, tout à fait. Quel que soit le niveau de licence, que ce soit un pilote professionnel, un pilote de ligne, un pilote privé, on a un théorique qui est associé. Sur le pilote privé, forcément, il est adapté au pilote privé. Mais oui, effectivement, il y a une partie théorie qui est composée de deux modules principalement, une épreuve commune et puis une épreuve spécifique, puisque tu pourrais très bien faire une licence d'hélicoptère, une licence de planeur ou autre. Donc on a des parties spécifiques et communes. Et on passe différentes épreuves qui regroupent aussi bien de la réglementation, des facteurs humains, de la communication, pour parler à la radio, malgré tout. Tu vas avoir de la navigation, de la préparation de vol, de la météorologie. Il faut pouvoir appréhender tout ça. Donc effectivement, il y a une épreuve théorique qui te donne accès comme le code à un théorique. Et après, on a une épreuve pratique qui se prépare. Globalement, le volume pour passer le brevet de pilote privé, le volume réglementaire, c'est 45 heures sur un PPL. Un petit peu moins sur le LAPL qui est un brevet un tout petit peu en dessous. Mais pour parler du PPL, c'est celui qu'on fait à 95%, la pure licence de pilote privé qui donne... l'accès à titre privé à voler un avion en tant que commandant de bord sur cette licence-là, on a 45 heures, dont 10 heures en solo dedans, minimum. Donc en fait, il va y avoir une partie d'instruction au sol, on peut faire un peu de simulateur dedans, on va avoir une partie d'instruction en vol. Tout ça se fait à peu près sur une période, ça dépend des gens, la moyenne est de 2 ans.
Ah oui, d'accord.
La moyenne est de 2 ans, mais on peut très bien le présenter en 2 mois si on est là tous les jours. Tu vois, c'est un peu comme un permis moto. Hein. Si tu y vas tous les jours, y a pas de souci. Ou un permis voiture. Si tu le fais une fois par semaine, ça prendra un petit peu plus de temps. Donc il y a un volume de formation. Et puis une fois que tu es prêt, une fois que l'instructeur et le responsable pédagogique de l'école disent bon, c'est bon, il a passé les contrôles en interne, il est prêt. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle une recommandation à l'examen. On présente un examinateur en vol et l'examinateur teste l'élève.
Faut compter quel budget pour un brevet ?
Globalement, il faut compter, la moyenne est aux alentours de 10 000 euros. Voilà. Tu peux faire moins si t'es pile dans les heures, peut-être 8 000, 9 000. Globalement, une heure de vol en instruction, on considère que c'est aux alentours de 180 euros de l'heure. Il y a 45 heures à faire, donc ça te donne globalement le budget. Il va y avoir des petits frais annexes, d'acheter un casque éventuellement à un moment pour le pilote, de la documentation, des cartes, tout le petit matériel entre guillemets qui va à côté.
Si on commence jeune, parce que tu parlais de gens qui ont entre 13 et 16, tu disais, je crois.
Ouais, t'as fait. En fait, il n'y a pas de limitation. On peut très bien commencer à 10 ans si t'as envie. Hein. Tant que tu touches les pédales, il n'y a pas de souci, façon de parler. C'est juste qu'on ne pourra pas faire le premier lâcher solo avant 16 ans. Et on ne pourra pas le présenter au test pour obtenir un PPL. Il faut au minimum 17 ans.
Pour un jeune qui commence comme ça, ça peut être un premier pas vers une carrière de pilote de ligne ou c'est des formations totalement dissociées ?
Ah, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Beaucoup de jeunes chez nous ont été derrière sur des formations soit militaires, ont présenté des concours militaires pour être soit dans le transport, soit dans la chasse. Et on en a beaucoup qui poursuivent vers pilote de ligne, qui des fois même est une étape après avoir soit malheureusement ne pas avoir été pris en tant que militaire, soit avoir été ajourné en formation pour des raisons médicales des fois, parce que on passe différents tests, et puis arrivé à un moment on s'aperçoit que c'est pas possible, donc des fois on continue une carrière en civil, ou alors des gens qui vont directement sur du civil, sur lequel on va faire après des formations ce qu'on appelle modulaires, puisque en fait le pilote est titulaire d'une licence de pilote privé, il va faire un petit peu d'expérience, et après on passe différents modules. Ta licence de pilote privé te permet de piloter 2 jours avec des passagers dans un avion entre guillemets basique, ce qu'on appelle SEP, donc monomoteur à piston. Et après, si tu veux augmenter tes autorisations, c'est un peu comme le permis, on rajoute des cases. T'as le permis B, si tu veux la remorque, tu passes l'extension, tu passes le permis BE et autres. Chez nous, c'est un peu pareil. Tu vas passer la qualification vol de nuit, tu vas passer la qualification vol aux instruments, tu vas passer d'une licence de pilote privé à une licence de pilote professionnel qui permettra de voler à titre commercial, donc de pouvoir être rémunéré. C'est comme avoir une licence de taxi, finalement. Après, on va, si tu veux, demain piloter sur tel type d'avion, par exemple avec 2 moteurs, on va passer une qualification multimoteur. Donc en fait, tout ça sont des qualifications qu'on met sur la licence. Les qualifications ont des durées de validité, qui sont généralement entre 1 et 3 ans selon la qualification que tu as, et qui nécessitent d'être renouvelées tout le temps. Donc on fait ce qu'on appelle la proroger si tu es dans les conditions, ou la renouveler si tu l'as laissé expirer, mais il faut en permanence passer avec un examinateur ou autre, et puis prouver que tu es toujours au niveau. Donc on peut, si tu arrêtes totalement de voler pendant 1, 2, 3 ans, tu peux tout perdre aussi de la même façon, à part ta licence, mais il faudra réactiver les connaissances. C'est pas comme une voiture, c'est pas à vie.
Donc on peut dire quand même que les aéroclubs, pour en revenir au début de ce qu'on disait, c'est un vivier en fait pour l'aviation commerciale.
C'est un gros vivier pour l'aviation commerciale. Hein. Beaucoup de pilotes qui sont aujourd'hui pilotes de ligne sont passés par un aéroclub et puis généralement même continuent après, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont en ligne, ils reviennent dans les aéroclubs pour distribuer leur expérience, leur savoir. Après, il y a eu différentes périodes dans l'histoire d'aviation. À une époque où il fallait mettre des pilotes dans les avions, c'est limite les compagnies qui venaient dans les aéroclubs chercher les pilotes en disant « est-ce que vous voulez ?» Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, effectivement. Mais la passion est toujours là et on trouve beaucoup de pilotes de ligne dans les aéroclubs qui vont transmettre leur envie de voler et autres. Et puis, on trouvera toujours, en allant voir un aéroclub, généralement, un pilote de ligne sera capable de vous renseigner sur la formation à faire, sur les différentes filières, sur les métiers. Il y en a tellement. Entre les formations, qui sont payées par l'État, en passant par l'ENAC, entre la filière cadet d'Air France, qui est en train d'être relancée, entre les filières privées, les écoles privées, sur lesquelles on peut aller se former. Il existe tellement de choses, et puis encore une fois, il existe autant de métiers dans l'aviation, dans le pilotage, qu'il n'existe de pilotes. C'est-à-dire que c'est pas juste de dire je vais piloter un avion long courrier ou moyen courrier chez Air France, voilà. Il existe énormément de domaines. Certains vont faire de l'aviation privée, vont voler pour un propriétaire ou une entreprise qui possède son avion, ou pour une société qui spécifiquement met à disposition des avions pour des clients. Donc c'est la partie aviation d'affaires. Certains, ça va être pour faire du largage de parachutistes. Il y en a d'autres qui vont voler en aéroclub. Il en faut aussi des instructeurs. On a aussi des instructeurs professionnels en école. Donc tu vois, c'est énormément de métiers. Certains font de la surveillance, il faut surveiller nos frontières, tu vois, ça c'est important, de la surveillance aussi des zones, toutes les zones classées, les sites classés, tout ce qui est surveillance aussi de relevés topographiques, de relevés thermiques, donc voilà, il y a énormément de métiers dans l'aéronautique, c'est pas cantonné à une seule activité, et on peut vraiment faire beaucoup de choses.
Toi, tu passes combien de temps dans les airs par mois?
C'est assez difficile à dire parce que j'ai aussi beaucoup d'activités administratives au sol, de par les différentes choses que j'ai été amené à faire ou que je fais. Quand tu voles en compagnie aérienne, c'est pareil, c'est très difficile. J'étais responsable, donc quand tu es responsable d'un secteur ou d'opération, dans ce cas-là, ça dépend un petit peu aussi des tâches administratives que tu as à faire à côté. Tu peux faire 30-40 heures dans le mois, comme tu peux en faire 70 ou 80. Et là, on ne parle uniquement que des heures de vol, puisque c'est-à-dire du moment où l'avion commence à bouger jusqu'au moment où il revient au parking, puisqu'il y a toute la préparation du vol à côté. Donc c'est quand même des gros volumes à force. Tu peux aller à l'année jusqu'à faire 900 heures de vol par an, donc ça monte très vite. Mais voilà, tu peux aussi faire 200 heures ou 300 heures à l'année selon les responsabilités ou selon ce que tu fais.
Où ça tourne? Bon, là j'ai une belle vue sur ma droite, hein, avec l'inclinaison, ça fait quelque chose de sympa. Ah oui, là on ralentit, je vois la piste. Là, on est hop, perpendiculaire de la piste. Wow. C'est l'altitude qui a été annoncée dans le casque. Ouais, 500 pieds. Là, le virage pour se mettre en face de la piste. Allez, les derniers mètres, la piste se rapproche et... Et on entend que le moteur... quasiment silencieux. Et tout en douceur.
C'est dégagé de la tête. Allez, écoute ma train.
Tu as aussi été pilote de ligne, tu l'as dit plusieurs fois. Je suppose qu'il y a un millier de différences, mais ça doit notamment être dans le rythme de vie aussi, que ça doit être particulier.
Le rythme est très particulier. Après, il faut le savoir. C'est-à-dire que, bah, de toute façon, c'est un métier de passion. C'est un métier où on peut être amené à bouger beaucoup entre les bases, où on peut être amené à découcher, souvent, forcément. Donc, c'est un rythme de vie particulier. On n'en parle pas suffisamment aux pilotes quand ils rentrent en formation, mais effectivement, ça en fait partie. Après, j'ai toujours été... ravi, entre guillemets, de prendre l'avion, de partir le matin. C'est-à-dire que tu vas rarement à reculons pour partir en vol.
Oui, j'ai l'impression que c'est un peu le leitmotiv qui revient de toute façon, de ce qu'on parle, que ce soit de la formation, d'être instructeur, d'être... Il faut que la passion elle soit toujours là.
Tout à fait, la passion est là, sinon il y a tellement de contraintes que finalement tu ne le ferais pas, si la passion n'était pas là à côté.
Et alors, une vraie question très pragmatique et très, juste curieuse. Là, on a volé dans un petit avion où il y a deux écrans, quelques boutons, etc. Est-ce que dans le cockpit d'un avion de ligne, absolument tous les boutons servent à quelque chose?
Oui, tous les boutons servent à quelque chose, réellement. C'est-à-dire qu'en fait, dans un avion de ligne, on décompose tous les systèmes. Il y en a énormément. Dans un petit avion, il y a moins de systèmes. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai pas de pressurisation, j'ai pas, là, celui qu'on a pris, j'ai pas de train rentrant, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas la clim, j'ai pas tout ça. Un avion de ligne, il va y avoir des systèmes de sécurité supplémentaires, il va y avoir, tous les systèmes vont avoir des boutons pour pouvoir, en cas de panne ou de défaillance, les isoler, faire quelque chose. Donc, en fait, tous les boutons servent à quelque chose. Par contre, lors d'un vol, je dirais normal, on n'est pas censé se servir de tous ces boutons. C'est-à-dire qu'on va s'en servir de certains pour les opérations spécifiques de mise en route, d'arrêt, ou pour arrêter la clim, remettre la clim, les arrêter pour gagner des performances sur l'avion au décollage, par exemple, et les remettre après. Donc ça, c'est une décision de l'équipage de dire, bah là, on va faire plutôt ça, on va privilégier ça ou ça. Mais par contre, c'est en cas de panne où là, on aura besoin de ces boutons pour isoler des systèmes, pour changer des modes de fonctionnement du système électrique de l'avion ou du système hydraulique. Et donc, on appuie sur les boutons en suivant des checklists, bien souvent, des procédures. Il n'y a rien qui est inventé dans un avion. Hein. On n'est pas... voilà, il y a toujours une procédure qui est définie, qu'on va suivre. Il y a une méthode d'analyse. C'est un monde extrêmement rigoureux. Pour celui qui ne connaît pas, qui est néophyte et qui rentre là-dedans, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux qui nous apprend à suivre des procédures, qui nous apprend une rigueur, de la communication aussi, le travail en équipage, quelque chose de fabuleux. C'est-à-dire, encore une fois, il y a tellement de choses entre voler en tant qu'instructeur à titre, avec un seul élève, entre guillemets, comme ça, ce qu'on appelle monopilote, entre guillemets, donc tout seul, et puis de voler le travail en équipage. C'est une, si tu as un jour l'occasion d'assister de l'arrière, c'est un peu comme une partition de musique. T'as un fil conducteur et en fait les actions passent avec une fluidité, le travail en équipage est quelque chose d'important et c'est important de bien entraîner les pilotes là-dessus parce que si on casse ce travail en équipage, bah c'est souvent là que les problèmes interviennent. Et surtout en cas de panne. C'est ce qui permet, en étant très structuré, d'être serein en fait dans l'avion, dans ce qu'on fait. Et donc, on en revient au basique toujours. On dit toujours, il y a deux choses hein, dans l'aéronautique qui sont simples, revenir au basique et le bon sens paysan. Voilà.
Tu parlais de panne, est-ce que tu as déjà eu des frayeurs dans un avion ?
Des frayeurs, pas spécifiquement. Des cas de panne, j'en ai eu. Des cas de panne, même en aviation de ligne, hein, des cas de panne avec des retours terrain, avec les passagers ou autres, j'en ai eu, j'en ai connu. Souvent, c'est des petites pannes. Après, tu prends une décision en fonction des conditions qui t'arrivent. Si c'est une panne d'un système de dégivrage, entre guillemets, et que tu es dans des conditions givrantes parce qu'on est au milieu de l'hiver et que ça give, oui, c'est un cas de panne, mais voilà, il y a une procédure, tu es entraîné pour, en compagnie, tous les 6 mois, les pilotes sont au simulateur, s'entraînent, font des procédures, n'arrêtent pas. Donc c'est un métier très très exigeant qui demande d'être toujours en formation continue. On ne s'arrête jamais. Et ça demande de toujours travailler. Donc on est obligé de se remettre dedans en permanence, de suivre les évolutions réglementaires, mais de aussi connaître parfaitement l'avion sur lequel on vole. Et donc pour ça, ça demande énormément d'entraînement.
Je posais la question en fait parce que je me demandais si en cas de panne grave ou s'il y a justement un atterrissage difficile ou des choses comme ça, si au niveau psychologique il faut se remettre très très vite en selle.
Ouais. Ou... généralement on dit qu'il faut tout de suite remonter dans l'avion parce que si on laisse ce côté psychologique entre guillemets, bah plus le temps passe, moins on a envie d'y retourner. C'est déjà arrivé ici en aéroclub qu'on ait des pilotes hein, qui fassent des sorties de piste par exemple, qui se retrouvent avec un avion cassé en deux, voilà, en dehors de la piste ou autre. Généralement, quand on le peut, on repart tout de suite en vol, instructeur plus le pilote, pour tout de suite leur mettre en confiance que voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Encore une fois, on a l'habitude pour dire, bah, y a celui à qui c'est arrivé, celui à qui ça arrivera, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le principal, je dirais, c'est d'être toujours en vie, d'être en sécurité. Ce qui drive l'aéronautique en général, de toute façon, pour tout, c'est la sécurité. La sécurité des vols est quelque chose de primordial. Le retour d'expérience aussi. Et on a mis en œuvre, ça s'applique au sein des aéroclubs, mais ça s'applique aussi au sein des compagnies aériennes, ce qu'on appelle la culture juste et la culture non punitive, entre guillemets. C'est-à-dire que le fait de reporter ces erreurs est important parce qu'ils peuvent servir à d'autres quand on les utilise, pour éviter de les faire, mais aussi pour mettre en place des procédures et des barrières qui permettent d'atténuer les risques je dirais, jusqu'à les supprimer, même si on les supprime jamais totalement, mais plus on va faire part d'expériences, d'erreurs qu'on aurait pu faire, la remontée d'expérience est quelque chose de très important, qui n'existait peut-être pas dans le passé, mais qui est au sein de la culture depuis 20 ans et plus, et qui est vraiment le socle de l'aéronautique aujourd'hui.
C'est un concept qui est hyper intéressant, n'empêche de dire on peut reporter les erreurs qu'on a faites sans risquer en fait de sanctions.
Tout à fait.
Pour permettre aux gens de
le
faire.
Sachant qu'on demande de reporter forcément les erreurs, entre guillemets, qui sont non volontaires.
Oui.
Mais effectivement, oui, c'est cette culture non punitive qui pousse les gens en fait à dire d'eux-mêmes, bah voilà, on a fait tel genre de choses. On a même des rapports qui sont des rapports anonymes, entre guillemets, où on dit, bah voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, machin, ça. Et donc derrière, on a vraiment un responsable sécurité, un correspondant sécurité des vols, qui se charge d'analyser pourquoi cette erreur-là a été faite, est-ce qu'on pourrait l'éviter, comment on peut l'éviter, et après on transmet à tous les pilotes, et on ajoute ça aussi dans nos formations, pour former les pilotes et essayer de mettre ces situations auprès d'eux pour éviter que ça se produise.
Pour terminer, si tu avais un mot à dire, si tu avais quelqu'un devant toi qui veut voler, qui rêve de prendre les commandes d'un avion, mais qui n'ose pas ou qui ne l'a jamais fait, ce serait quoi le conseil ?
Tout simplement de passer la porte d'un aéroclub, c'est vraiment ce que je conseille à toute personne qui me dit « je suis intéressé pour devenir pilote de ligne ». C'est tout simplement de passer la porte d'un aéroclub, on va y trouver des passionnés qui vont nous montrer un avion, ce que c'est. On peut faire un baptême de l'air à partir d'une centaine d'euros. Hein. Aujourd'hui, on a des prix qui s'échelonnent de 110 à 250 à l'heure actuelle. Voilà, un vol avec instructeur est à un petit peu plus de 150 euros. C'est une demi-heure dans les airs, dont une demi-heure de briefing aussi au sol, où il va nous expliquer un petit peu comment ça marche, comment l'avion vole, ce qui s'y passe. Ça permet de démystifier la chose et de se rendre compte de ce que c'est, et si la personne est intéressée, de poursuivre, ou même juste de venir prendre des renseignements, savoir comment on fait pour aller sur des filières professionnelles ou privées à côté.
Et avoir la passion de l'aviation, si je comprends bien.
Avoir la passion, mais généralement, c'est quelque chose, si on passe la porte, il y a déjà un début, c'est-à-dire qu'on est intéressé pour le faire, et il y a cette passion-là, donc et la passion, généralement, drivera toute la formation.
Eh bien, merci beaucoup.
Eh bien, je te remercie également.
Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir, rien de plus simple, laissez une évaluation et un commentaire sur votre appli de podcast favorite. C'est gratuit et ça aide pour la promo. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Les comptes, c'est @OccupationPod. Occupation est au pluriel. Je vous dis à très bientôt pour un prochain reportage.